Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. En deuxième partie d'émission, nous reviendrons sur cet atelier bien-être animal qui est proposé à Bétail. Ça sera ce samedi-là. Vous pourrez encore vous inscrire. Mais dans un premier temps, alors que le département du Lot vient de présenter son stand pour le salon de l'agriculture qui va se dérouler ce mois-ci, on va s'intéresser à notre grande gagnante du concours Occitanie de l'Ovimpiade et qui va représenter la région avec un de ses camarades au salon de l'agriculture au niveau national cette fois. Alors l'occasion pour nous de nous arrêter sur ce métier de berger et notamment les jeunes. Pourquoi veulent-ils être bergers? Puis comment se déroule ce genre de concours? Quelle est la pression que l'on a? Eh bien c'est notre premier invité. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors et c'est le MAG. Devenir berger et pourquoi pas, il y a quelques jours, un concours qui a révélé quelques talents de l'élevage et notamment dans le Lot, il y a deux personnes notamment qui ont participé, qui ont gagné, qui vont représenter notre département, voire même la région au prochain salon de l'agriculture. Et nous avons Marie Delpech qui est avec nous. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors Marie Delpech, éleveuse, ou est-ce que c'est beaucoup plus large que ça ce que tu fais?
Oui, on peut dire éleveuse. Enfin, pour l'instant, je ne suis pas encore installée, mais on peut dire ça, oui.
Oui, parce que tu es en BTS, analyse et conduite. BTS, analyse, conduite et stratégie d'une entreprise agricole. Ça te vient d'où, cette envie de travailler dans le monde agricole?
Alors, moi, je suis née sur une exploitation agricole. Enfin, mes parents sont éleveurs de brebis. Et du coup, depuis toute petite, j'ai toujours été dans ce milieu. Et voilà, ça me passionne et depuis toujours, j'aide mes parents sur la ferme et c'est vraiment un métier qui me plaît.
Et tu as décidé à un moment donc de faire les études pour ça?
Oui, voilà, donc j'étais d'abord partie en école d'ingénieur, puis finalement j'ai préféré revenir en BTS, une formation un peu plus technique et un peu plus concrète près de chez moi.
Elle est obligatoire cette formation maintenant quand on veut avoir une entreprise agricole?
Elle n'est pas obligatoire, non, on peut s'arrêter au bac, mais je pense que c'est bien de la faire parce qu'on apprend beaucoup sur les animaux et sur la gestion d'une entreprise surtout.
Alors avant de parler justement de ce concours et de cette passion, c'est intéressant de s'arrêter sur cette formation au cas où il y ait des jeunes qui se posent des questions et qui sont en voie qui recherchent leur orientation. Est-ce que c'est un diplôme où vous vous intéressez sur une particularité de votre métier, c'est-à-dire par exemple en ce qui te concerne, toi c'est l'élevage de brebis, ou est-ce que c'est plutôt général?
Non, c'est assez général. Après, en fonction des profils de la classe, les profs orientent leurs cours sur ce qui nous plaît, mais c'est très général.
Est-ce que ça n'a... Tu connais tes parents et leur métier, du coup, mais ça t'a pas découragé, tout cela, de voir que c'est quand même un métier qui est difficile, encore plus maintenant?
Oui, c'est vrai, c'est difficile, mais la passion l'emporte. C'est vrai, je me vois pas en fait ailleurs dans un bureau ou quoi, c'est vraiment être au contact des animaux, être au contact de la nature, pouvoir préserver un environnement, tout ça qui me plaît.
D'accord. Dans l'élevage, dans l'exploitation de tes parents, alors il y a combien de brebis?
Alors on a 1500 brebis qui sont au pâturage toute l'année, donc en plein air toute l'année.
Donc tu as eu le temps de t'entraîner un petit peu avant d'entrer dans ton cursus?
Oui, oui, oui.
Et alors, ce concours-là, comment ça se fait que tu l'as présenté? Le concours du meilleur berger?
Oui, c'est ça, qu'on appelle aussi les Ovimpiades.
Voilà, mais pour le Ovimpiade, effectivement, pour les personnes en général, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, c'est très compliqué, tandis que quand on dit meilleur berger, effectivement, on comprend mieux. Donc, qui t'a lancé dans ce défi, dans ce concours?
J'en ai toujours entendu parler via mes parents, mon père qui a été juge plusieurs fois pour certaines épreuves des Olympiades. Et après, quand je suis arrivée au lycée, donc il y a 2 ans, les profs nous en ont parlé et on pouvait s'inscrire. Et moi, ça me tentait de m'y inscrire, donc c'est ce que j'ai fait. Et voilà, comme ça que j'ai participé la première fois.
J'imagine que tu as suivi ton père justement quand il était juge, alors que tu as pu voir comment ça se passait.
Oui, c'est arrivé, oui, que je le suis.
C'est quoi alors un bon berger? Parce que c'est un peu ça le but, hein, c'est quand même ton titre, c'est meilleur jeune berger d'Occitanie, c'est ça?
Oui,
Donc
aujourd'hui, oui.
c'est quoi un meilleur berger, un très bon berger?
Je pense que c'est déjà quelqu'un qui sait reconnaître quand un animal va pas bien, quand un animal a besoin d'aide, quelque chose comme ça. Et après, c'est savoir conduire un troupeau au mieux. Et après, par l'intermédiaire des Olympiades, on apprend tout ce qui est aussi la génétique du troupeau, la santé, le tri, savoir trier les animaux. Voilà.
Alors le concours, ça se passe comment? Ce sont des épreuves théoriques, ce sont des épreuves pratiques, c'est un mélange?
Oui, c'est un mélange. On a deux épreuves théoriques qui sont une reconnaissance des races et un questionnaire sur la filière ovine. Et après, on a cinq épreuves pratiques sur le tri des brebis, la santé des brebis, l'évaluation de l'état d'engraissement des agneaux et de l'état de santé des brebis, un état corporel et ensuite une épreuve de génétique.
Et alors, quand il y a l'épreuve de conduite du troupeau, alors premièrement, j'imagine que ça ne doit pas être évident parce que ce ne sont pas tes brebis.
Non, c'est sûr, c'est pas. Enfin, ça dépend. Au départemental, c'était des brebis que j'avais, dont j'avais l'habitude.
Ouais.
Après, au régional, non, c'était une autre race. Mais il y a des façons d'être pour que les animaux nous suivent. Et généralement, ça marche.
Alors, c'est quoi? C'est un parcours que l'on vous impose et il faut que toutes les brebis te suivent.
C'est une épreuve de tri des brebis. Donc, en fait, elles passent dans un couloir de contention. Et on doit les lire avec un bâton de lecture. On doit biper la boucle électronique. Et on doit regarder sur un écran si la brebis est une réforme ou si elle est, ou si l'éleveur décide de la garder. Et donc, on doit trier au bout du couloir, à droite ou à gauche, selon la catégorie de la brebis.
Alors, pour que l'on puisse comprendre, ça veut dire que le berger, en règle générale, s'il doit trier, c'est qu'il s'occupe de plusieurs troupeaux.
Il peut y avoir, oui, généralement il y a plusieurs troupeaux quand il y a différentes périodes de mise bas. Donc il y a au moins deux troupeaux, mais après ça dépend des élevages aussi. Et après, quand on fait aussi les échographies, si on veut dénombrer, on va avoir un troupeau de brebis simples ayant qu'un agneau, brebis doubles et parfois des triples. Et donc là aussi, on peut trier pour adapter l'alimentation en fonction des besoins des animaux.
D'accord, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en compte, c'est pas la même alimentation, donc il faut pas se tromper. Et là, ça se passe en pleine nature, ce concours, ou c'est dans un endroit fermé?
Alors, au régional, c'était dehors, mais à Paris, ça sera à l'intérieur, du coup.
Ouais, parce que tu vas représenter effectivement l'Occitanie au salon de l'agriculture le 26 février prochain. Vous étiez combien de candidats en Occitanie?
On était une cinquantaine, un peu plus même.
Alors, qu'est-ce que ça va t'apporter pour toi, ce titre de meilleur jeune berger d'Occitanie et peut-être de France, on l'espère?
Je pense que c'est avant tout une reconnaissance par mes parents, mes proches, tout ça. Après, c'est pour moi, c'est ça m'apporte pas plus que ça, mais ça a été des bons moments de partage. C'était très convivial et on apprend beaucoup de choses, plein de connaissances sur l'élevage ovin en général, sur la filière ovine dans le département, dans la région et voire même à l'international aussi.
Les bergers, enfin, j'ai un souvenir hein, de l'endroit où je viens, des montagnes, où les bergers restaient tout l'été dans les montagnes avec les brebis dans le Lot. Ça se passe comme ça?
Il y a quelques brebis qui partent dans le Massif central l'été, mais les nôtres, non, on les garde sur l'exploitation. Mais non, ça s'est un petit peu perdu la transhumance, même si ça revient, je pense, parce que maintenant c'est classé dans le patrimoine à l'UNESCO.
Qu'est-ce qui va se passer?
Mais.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour toi? Quel est ton avenir? Comment tu le vois?
Alors moi, je pense que l'année prochaine, continuer un peu mes études, mais après, j'aimerais bien revenir sur l'exploitation de mes parents et m'installer avec eux pour continuer l'élevage au vin qui sont commencé depuis quelques années. Et après, j'aimerais bien développer un peu toute la partie accueil à la ferme, enfin, tourisme rural. Et pourquoi pas après la vente directe, enfin, transformer à la ferme et vendre en direct. Toujours pareil pour accueillir du monde sur la ferme et ouvrir la ferme aux personnes qui connaissent peu de choses et qui ont envie d'en savoir plus.
Alors j'imagine, Marie, que tu as vu, depuis le temps que tu connais l'exploitation de tes parents, tu as vu que le métier se transforme, se change. Tu as vu également qu'il y a des nouveautés, des défis à chaque fois à affronter. Je pense que tous les jeunes qui étaient là ce concours, et dont toi, vous êtes conscient que dans votre métier, vous allez être obligé de vous adapter, de trouver d'autres choses pour vivre, pour exister, et non plus survivre.
Oui, mais déjà on va devoir s'adapter à la demande des consommateurs. Et aujourd'hui, tend plutôt vers une diminution de la viande au quotidien, c'est à manger un peu moins de viande. Et après, c'est surtout le changement climatique aussi qui va toucher, enfin qui va nous pas nous pénaliser, mais ça sera plus compliqué de parfois de nourrir les animaux l'été quand il fait très sec ou l'hiver quand il fait très froid.
Qu'est-ce que tu as vu comme changement, toi, depuis le temps, au point de vue changement climatique, justement, dans le Lot, depuis le temps que tu es au milieu des brebis? Qu'est-ce qui a changé, d'après toi? Alors, là, tu parlais de la chaleur ou peut-être du manque d'eau ou autre. C'est vraiment la chose la plus importante qui t'est arrivée durant toute cette carrière? Parce qu'on peut dire que c'est une carrière, hein, même si si t'as suivi tes parents en étant très jeune fille, c'est forcément, ça rentre dans ta carrière, j'imagine.
Oui. Moi, je pense que c'est la sécheresse le manque d'eau et la sécheresse qui est qui nous pénalise le plus parce que nos brebis étant tout le temps au pâturage, mais tout le temps à l'herbe, lorsque tout est sec, c'est plus difficile de trouver de la ressource pour les nourrir. Mais bon, après, on arrive avec une certaine gestion du pâturage à trouver quand même de la ressource. Et voilà.
Parce que c'est compliqué, effectivement, quand on se promène dans le secteur l'été, on voit les champs où l'herbe est toute grillée. Ça doit quand même à chaque fois vous donner du fil à retordre.
Oui, un peu, mais après, voilà, on fait en sorte de pâturer les prairies au printemps quand il y a de l'herbe et on garde les parties dans les sous-bois, enfin dans les bois pour l'été où ça sèche moins vite puisque c'est protégé par les arbres. Et après, quand vraiment ça arrive, un été très très sec, ça nous est arrivé d'acheter par exemple des fruits qui sont déclassés, donc qui seraient jetés. Et bien, finalement, nous, on va les acheter pour les donner aux animaux. Ça apporte à la fois du sucre, enfin des glucides et de l'eau pour les animaux. Et ça permet de compenser un peu ce manque de ressources qui était.
Ouais, donc éleveur, c'est pas forcément mettre ses brebis au tout début dans un pâturage et puis l'échanger de temps en temps en pâturage, c'est beaucoup plus complexe que ça.
Oui, c'est toute une gestion à la fois du troupeau, du territoire, enfin des parcelles, tout ça, à avoir une gestion économique et technique.
Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui se demande la question? Bah ouais, qui se demande tout simplement, est-ce que le métier de berger est fait pour moi? Est-ce que ça vaut le coup de faire encore berger maintenant?
Oui, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, d'autant plus qu'on est de moins en moins d'agriculteurs aujourd'hui en France. Et il faut avoir vraiment, je pense, la passion pour ce métier parce que c'est pas toujours facile, ça dépend des jours. Mais après, je pense que du moment qu'on a la volonté d'y arriver, enfin, d'essayer, tout le monde peut avoir sa place dans ce milieu. D'autant plus qu'il y aura de plus en plus de population et il faut toujours nourrir celle-ci, donc il y a la place pour tout.
Et quand tu auras des enfants, si jamais eux ne veulent pas faire ce métier, tu le prendrais comment?
C'est un choix personnel, je ne leur en voudrais pas du tout s'ils ne veulent pas prendre la suite ou quoi. C'est vraiment à eux de choisir. Enfin, mes parents me laissent totalement le choix, donc je ferai pareil si un jour j'ai des enfants.
En tout cas, Marie Delpech, bravo pour ce prix de meilleur jeune berger d'Occitanie que tu as eu avec Nicolas Delbos. Ça veut dire, alors Nicolas Delbos, lui, il est du CFA du Lot, justement, CFA agricole. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait un prix masculin et un prix féminin ?
Non. Il y avait, c'est tout le monde dans la même catégorie. Enfin,
donc, il y avait deux places pour représenter la France ?
Il y avait 6 places à la région Occitanie aussi.
Et comment tu te prépares alors pour cette finale qui va se dérouler? Parce que là, on est dans un autre niveau, hein, c'est-à-dire que tu vas avoir affaire à des candidats redoutables, hein, puisqu'ils ont tous été meilleurs dans leur région. Comment est-ce qu'il y a un entraînement? Tu t'entraînes avec tes brebis ou pas?
Alors moi, j'ai la chance du coup d'être sur une ferme avec des brebis, donc oui, je vais m'entraîner un peu à la maison. Et après, au lycée, avec mes professeurs, on va refaire un petit entraînement avant le salon, pour se remettre en tête tout ce qu'il faudra dire, tout ça, lors de la finale nationale.
Parce que ça veut dire que là aussi, il y a des épreuves théoriques ?
Oui, c'est des épreuves, c'est un questionnaire sur la filière ovine.
D'accord. Donc avec ça, si jamais tu es élue meilleure bergère de France, on peut dire quand même que tu vas avoir ton BTS, quoi, hein ? C'est logique.
Oui, on espère. Oui.
Tes professeurs vont t'accompagner ?
Il y a un prof du CFA qui viendra.
Bon, très bien. Eh bien, écoute, Marie Delpech, merci de nous avoir parlé de ce métier. L'exploitation de tes parents est située où ?
Sur la commune de Cabre.
D'accord, très bien. Donc, du coup, si on est par là-bas, on a de fortes chances de te croiser alors.
Oui.
Bon. Et puis on te souhaite un bon courage et une bonne chance pour ce concours au Salon de l'agriculture à Paris. On va suivre ça. C'est le 26 février prochain. Est-ce que tu deviendras meilleur jeune berger de France ? Ça fait 17 ans que cette épreuve existe. Et bien maintenant, à toi de représenter les couleurs du Lot et de montrer que dans le Lot, on sait faire avec les brebis. On n'a pas de doute de ce côté-là, mais au moins ça donne en plus, je pense que tu l'avais compris, une belle image du département et de la région.
Oui.
Merci Marie Delpech.
Merci à vous.
Samedi. CFM Cahors. Le MAG.
Samedi 19 février à 14h30 à la ferme de Louisotte à Bétail, un atelier créatif récup, fabrication de jeux d'occupation pour chiens et chats. Vous allez apprendre à le faire grâce à Audrey Ersigny qui est pet sitter et Sarah Bena qui est passionnée. Et Audrey justement nous avait déjà expliqué le pourquoi de cet atelier.
Alors mes deux premiers ateliers, c'était des conférences sur le comportement canin en premier et ensuite sur le comportement félin. Et du coup, en fait, je me rends compte que la plupart des personnes n'ont pas beaucoup de connaissances sur les besoins fondamentaux de leurs animaux de compagnie. Et l'occupation mentale, ça en fait partie. Et du coup, là, sur le troisième atelier, c'est en lien avec les deux premiers. Je vais donner des moyens concrets aux personnes pour occuper leurs animaux de compagnie. Donc c'est des jeux principalement des gamelles ludiques, on peut dire, où on va cacher de la nourriture dedans et ça va permettre aux animaux de se dépenser mentalement. C'est aussi c'est autant important que la dépense physique en fait.
Pourquoi ?
Et ça va même les fatiguer plus. Voilà, parce que en fait l'animal c'est pas une plante verte, il a pas seulement besoin de manger des croquettes dans sa gamelle et d'aller courir. En fait, lui, à la base, dans sa génétique, la recherche de nourriture, c'est une activité très complète, ça lui prend plusieurs heures par jour. Et donc, nous, en tant qu'humains, on a le devoir, en fait, de se rapprocher au plus près de ses besoins. Et puisqu'on ne peut pas se permettre de le laisser chasser dans la nature, on peut trouver des alternatives à la maison.
D'accord. Alors ces accessoires, vous les fabriquez avec quoi ? Parce que j'ai envie de vous dire déjà la première chose, ouais, pourquoi je m'embêterais à faire ces accessoires alors qu'on les trouve dans le commerce ?
Eh bien déjà, parce que ça coûte cher, les jouets pour chiens. Et il y a tous les gens qui ont des animaux n'ont pas forcément les moyens d'acheter des jouets parce qu'on a aussi des animaux qui peuvent être super destructeurs, comme les chiens par exemple. Donc le jouet, il va faire 5 minutes et puis ça nous aura coûté une fortune. Mmh. Donc là, l'idée, c'est donner les moyens à tout le monde, peu importe le budget, de répondre aux besoins de son animal. L'idée, c'est de commencer avec des choses simples. Là, par exemple, on va construire un pipolino. Donc, dans le commerce, en fait, ça se représente sous forme de tube. Il y a des trous dedans et le chien ou le chat d'ailleurs, il va devoir pousser le tube pour faire tomber les croquettes par les petits trous. Voilà, donc ça on peut le faire avec une bouteille en plastique. Bon, forcément ça dure moins longtemps, mais ça peut être déjà une première approche pour voir si son animal il apprécie ou pas de se servir de ça.
Au final, si je comprends bien, il y a dans les rayons des tas de choses. Quand on les achète, on se fait plus plaisir à nous.
Eh bien, on peut tout essayer, mais c'est vrai qu'en fait, faire plaisir à son chien ou son chat, c'est à la portée de tout le monde et avec des matériaux qu'on récupère. On n'est pas obligé d'acheter des choses dans le commerce.
Donc cet atelier, est-ce que les gens doivent venir avec des matériaux qu'ils ont récupérés aussi?
Oui, alors du coup, j'ai fait un événement sur Facebook qui est accessible à partir de ma page professionnelle Pat & Compagnie 46. Et dans cet événement, il y a la liste des matériaux, donc une liste pour les chiens et une liste pour les chats. Et après, les gens doivent s'inscrire par téléphone. Donc quand ils s'inscrivent, du coup, je leur demande leur mail et je leur envoie, si besoin, la liste par mail. Après, c'est pas un impératif parce que on est deux animatrices et on va aussi mettre des choses de côté, donc pour les gens qui n'en ont pas, du coup. Et on va aussi inciter les participants à ramener plus de choses pour pallier aux personnes qui n'ont pas de matériel. Là, moi, je vais fabriquer aussi un jouet qui s'appelle un tug. Donc ça, c'est pour les chiens et c'est avec du tissu. Donc il faut pouvoir découper des grandes bandes de tissu, plutôt épais, du coup, pour que ça soit bien résistant. Donc c'est plein de choses. Et après, j'espère que ça va susciter la créativité chez les gens et qu'ils vont trouver des variantes à faire chez eux.
Donc là, ils vont apprendre à faire combien de jeux, du coup, pour cet après-midi-là?
Alors moi, pour les chiens, je vais en proposer 3, mais sachant qu'il y a une multitude de variantes pour les 3. Et pour les chats, je pense que Sarah va en proposer 2, il me semble. Mais il y en a un qui sera plutôt complexe et assez élaboré.
Eh ben voilà, et on n'a pas demandé le prix?
Alors c'est une participation à prix libre, du coup ça va dans le sens de, on n'est pas obligé d'avoir de l'argent pour faire plaisir à son animal.
Ouais.
Donc c'est un prix libre, il faut savoir que moi je vais payer une location pour la salle. Et après mon intervenante, elle est bénévole mais j'aimerais bien la défrayer quand même pour son déplacement. Et moi du coup ma rémunération elle va dépendre de la participation des gens. Donc c'est chacun fait selon ses moyens, mais j'espère quand même qu'on va récolter une petite enveloppe.
D'accord, et il y a combien de places?
Alors il y a 10 places pour les chats et 10 places pour les chiens.
C'est des deux ateliers différents en fait, ils ne sont pas au même endroit?
Ils sont dans la même salle, mais on fera deux tables différentes pour imaginer.
Audrey Arsigny, Pet Sitter, qui organise donc cet atelier bien-être animal. Vous allez pouvoir apprendre à créer avec des objets de récupération des jeux pour votre chien et votre chat. Pour plus d'informations, vous allez sur la page Facebook Pat et Compagnie 46. Ça se passe donc à Bétail, à la ferme de Louisotte. Et les places sont limitées, donc n'hésitez pas effectivement à réserver et à vous renseigner. À ne pas louper également à la librairie Fourmi Rouge, la Fourmi Rouge. Ce soir, il y a un atelier de yoga, on en a déjà parlé également. Mais il y a également une rencontre avec Christophe Dabitch ce vendredi à 19h, écrivain et scénariste de bande dessinée. Après des études de lettres modernes, de sciences politiques et une école de journalisme, Christophe Dabitch a travaillé comme journaliste indépendant durant 15 ans dans la presse écrite, les revues, la télévision aussi, mais également dans la réalisation de documentaires. Il publie donc des livres seuls ou avec des dessinateurs et des photographes, des bandes dessinées et des récits dont certains en lien avec ses voyages en ex-Yougoslavie, par exemple l'Afrique, la Syrie, le Liban et en France. Et donc c'est à l'occasion de la parution du deuxième tome de Roi des Mapuches chez Futuropolis que l'auteur viendra vous présenter son travail et dédicacer la série. Et puis ce n'est pas tout puisque vous cheminerez également de l'Argentine au Chili avec les papis qui feront le voyage en dégustant par exemple un Malbec très intéressant, un Malbec argentin en partenariat avec la boutique Plaisir du Vin à Cahors. C'est donc ce vendredi 18 février à 19h à la librairie La Fourmi Rouge. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi en rediffusion à 17h et 21h30 et en podcast sur cfmradio.fr. Dans un instant, le journal.